32e de notre 10e saison, troisième partie, où on va alors rester dans l'Europe, évidemment, Éric Andrieux, puisque c'est le thème de cette émission. Mais vous êtes vous-même en campagne, directeur de campagne pour un candidat, on peut le citer, Monsieur Glucksmann. Bon, il y en a d'autres. J'imagine que vous êtes pris sur le terrain de façon très intense. Et évidemment, et que vous faites appel aussi à votre expérience de socialiste, puisque vous avez été pendant tout ce temps la députée socialiste. Comment les choses se passent-elles pour une élection? Vous avez alors vécu, on ne l'a pas évoqué, mais vous avez été dans la politique locale pendant très longtemps, au niveau départemental, au niveau communal. Quelle est la différence avec une telle campagne aujourd'hui européenne?
Mais déjà, les enjeux sont d'ordre international.
Oui, bien
donc,
sûr.
Donc, c'est pas en charge d'échelle.
Mais dans le déroulement.
Bien sûr, mais dans le déroulement, d'abord, la campagne, le scrutin est national, puisque la circonscription électorale est nationale.
National.
Il y aura une liste, chaque parti va présenter une liste de 81 membres, 81 colistiers.
Voilà, et c'est à la proportionnelle.
Exactement.
Proportionnelle
un
d'un
tour.
Seul tour.
Voilà, on vote
tour.
Le 9 juin, c'est une élection à un tour, donc j'appelle nos auditeurs à prendre la mesure de l'enjeu.
Ne pas attendre le deuxième.
Ne pas attendre le second tour, voilà, c'est trop tard. Et donc, du coup, c'est en fonction de cette élection-là, en fonction du pourcentage de voix obtenues, qu'on a un nombre de candidats. Voilà, sur les 81, c'est 10, 15, 20, 30 élus. Et donc, ils vont siéger ensuite au Parlement européen, se retrouver dans des groupes politiques à l'échelle européenne, depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, donc pour pouvoir œuvrer dans la constitution, de la fabrication, l'élaboration de la loi européenne. Donc localement, au niveau national, ça change. Moi, j'ai été élu, donc je l'ai dit, pendant 10 ans. Ça fait dire que j'ai fait trois élections. Donc deux élections locales donc et une élection nationale en 2019. Et là, je dirige effectivement, vous l'avez souligné, la campagne de Raphaël Glucksmann pour cette élection de 2024. Et ce qui est très nouveau, d'abord pour moi, c'est la mission qui est énorme et essentielle, puisqu'en fait... On travaille beaucoup avec le candidat, à la fois sur la définition, d'abord c'est du partenariat, parce que c'est deux partis qui se sont regroupés, le Place Publique et le Parti Socialiste, autour de Raphaël Glucksmann, pour conduire cette liste-là. Donc ça veut dire, on participe de l'écriture d'un synopsis, donc le projet politique, donc depuis le mois de décembre, c'est pas un petit sujet. Moi, l'avantage, c'est que je connaissais bien le Parti Socialiste, effectivement.
Oui, et notamment la synthèse, l'art de la synthèse.
Voilà, et donc du coup, de pouvoir regrouper un petit peu les acteurs. Donc on est en lien, concrètement, il y a plusieurs étapes, évidemment. D'abord, on va écrire le synopsis de campagne, on va écrire donc le fond politique, le contenu du projet, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve, qu'est-ce qui fait qu'on se rassemble, qu'est-ce qu'on a comme vision de l'Union européenne. Nous, on fait une campagne... exclusivement sur l'Europe. On ne mélange pas les enjeux nationaux, les enjeux européens. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de sécurité et de défense. On parle beaucoup d'écologie et de social. On parle beaucoup, donc, de droit, effectivement. Donc, c'est cette alchimie-là qui est essentielle. Et ensuite, bien sûr, du volet institutionnel. Parce que pour pouvoir prétendre à donner de la force à l'Europe, eh bien, on doit donner des moyens, effectivement, financiers, administratifs, techniques. Et de ce fait, ça implique, dans un premier temps, déjà d'être d'accord sur une ligne politique, une vision de l'Union européenne et des enjeux. Ensuite, on va traduire dans cette ligne-là en mode opératoire. C'est le boulot du directeur de campagne qui se met d'accord déjà avec le candidat pour être bien d'accord sur la ligne. Ensuite, on est là pour organiser toute la partie politique, j'ai envie de dire, avec les colistiers. Donc, comment on organise ça sur l'échelle nationale, c'est immense. La France est un grand pays, je peux en témoigner là aujourd'hui. Et ensuite, la partie technique, c'est-à-dire donc, ensuite, on a la partie budgétaire. C'est un budget qui est assez considérable, puisqu'on peut, sur les européennes, pour donner des ordres de grandeur, le montant de la dépense potentielle s'élève à 9 millions d'euros.
Ah, c'est le maximum.
Ça, c'est le maximum,
autorisé.
1 million 2, 2 millions 3. L'État, donc, peut rembourser jusqu'à 4 millions 3 d'euros. Et donc, du coup, nous, on est sur cette base-là. Donc, d'ailleurs, la plupart des partis sont sous cette base-là. On essaie de pas dépasser cette enveloppe-là. Donc, comment on la finance? Parce qu'on parle jamais de recettes, mais pourtant, c'est un élément majeur d'une campagne électorale. Donc, on la finance par des prêts, bien sûr, des prêts bancaires, et ensuite par des apports des candidats, mais les apports aussi de tout un chacun. Chacun peut amener à la campagne par des dons.
Oui, il y a des dons.
Ou par des prêts, également. Des prêts intéressés, d'ailleurs, dans la 3%. Et donc, ça participe du financement de la campagne. Et ensuite, le boulot, j'allais dire, du directeur de les campagnes, c'est de faire des choix. Vous savez, chaque budget est stratégique, hein. Si on met des enveloppes sur les ressources humaines, c'est un signe. On le met sur les meetings, ça en est un autre. On le met sur la communication, tout ce qui est du matériel, hein, affichage, donc trad, etc. C'est aussi des sujets aussi concrets que ça. Et donc, le directeur, il va définir les lignes, il va définir les lignes de communication, les sujets de marketing politique, finalement, au-delà du fond, et l'organisation. L'organisation qui se fait différemment à l'échelle nationale, de fait, puisqu'il y a beaucoup de travail sur les médias nationaux. Donc, il y a beaucoup de travail aussi sur les mobilisations territoriales, c'est-à-dire que par commune, par département, on fédère nos forces, finalement, que ce soit les élus, les associations, les partenaires, et on essaie d'aller expliquer le bien fondé de la démarche, le bien fondé du projet que l'on porte, donc, hein, pour essayer de non pas, oui, j'ai envie de dire convaincre, mais convaincre la pertinence du projet que l'on porte, mais pour ce qui est de notre responsabilité, en respectant, je dirais, donc, la démocratie d'une part, et en respectant la parole différente, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux majeurs dans cette élection, où on a quand même en France donc une extrême droite et qui est quasiment à 40%, donc voilà, c'est pas un petit sujet, on peut l'évoquer.
Ce qui est habituel pour des Européennes, c'est pas la première fois que les
pas à ce niveau, jamais.
Pas à ce niveau, mais qui sont en tête, ça fait plusieurs fois quand même.
Oui, mais jamais on a atteint.
Ce qui est assez surprenant aussi par rapport aux autres types d'élections.
Mais bien sûr, c'est sûr. Les dernières législatives dans ce département nous ont montré quand même que la surprise était moindre.
Jusqu'ici, ça a été un exemple.
Oui, jusqu'ici. Mais c'est pas un problème. Pendant longtemps, on a pensé que l'extrême droite était une question de moralité. Non, c'est un sujet éminemment politique. Et que je pense, dans un débat démocratique, il faut montrer les deux visions de l'Europe. Celle portée par l'extrême droite, qui aujourd'hui, quand on est à 40%, c'est un sujet majeur. Et celle portée par, et nous, ce que nous portons dans le quotidien de notre campagne, c'est un modèle différent, effectivement, de l'extrême droite. L'extrême droite a la volonté de se replier sur l'État-nation. Et nous, on pense que la plupart des sujets qui nous incombent, lorsqu'on parle d'économie, lorsqu'on parle de migration, lorsqu'on parle de santé, lorsqu'on parle de sécurité et de défense, lorsqu'on parle donc d'environnement et de climat, ces questions-là ne se régleront pas à l'échelle nationale. Eux prétendent que oui. On attend qu'ils nous le démontrent, d'accord? Mais effectivement, je pense qu'il y a des sujets comme ça.
Et là, on est vraiment dans le débat politique.
Et là, on est dans le débat politique. Et donc, pour revenir à votre question, l'organisation d'une campagne, c'est ça, c'est comment, tout en respectant les divergences de vues, donc, hein, on nourrit le débat démocratique et on participe sans forcément de violence. Alors, il y a beaucoup de tensions dans cette campagne parce que beaucoup de partis, ne traitent pas les sujets européens, mais imposent des sujets nationaux ou internationaux dans la campagne qui n'ont rien à voir. Donc, avec des sujets, après, bon, c'est bizarre, donc, hein, de voir arriver dans une campagne un premier ministre qui va débattre avec une tête de liste, un président qui s'impose.
Ça,
donc, voilà.
Ça aussi, c'est un peu une particularité surprenante des Européennes, c'est des gens qui viennent, on se demande pourquoi ils viennent.
Mais parce que, donc, il y a
En mélangeant totalement les
gens. Je fais partie de ceux qui prétendent que ça ne grandit pas la démocratie, parce qu'il y a un mélange des genres, et ça ne facilite pas la lisibilité de l'élection.
Oui,
je crois qu'il y a un enjeu européen aujourd'hui, on va élire des députés européens qui, pendant les 5 ans à venir, vont légiférer dans l'intérêt commun à l'échelle du continent européen et donc de la France, mais qui vont légiférer sur notre quotidien, je le redis, sur les mobilités.
Et on ne semble pas conscient véritablement de cette chose-là.
Non, mais c'est là où c'est assez paradoxal, on peut avoir des grands discours. Il y a les 10 œufs, vous savez, toujours en politique, il y a les 10 œufs et les feuzeux, voilà, donc c'est comme ça. Mais on a des grands discours, il y a beaucoup entre les grands discours et la réalité, je dirais, il y a loin de la coupe aux lèvres, comme on dit souvent, pour prendre une autre parabole.
Oui, absolument.
Et donc, du coup, je trouve que ça ne grandit pas. Là, je parle en tant que directeur de campagne, puisqu'on donne le sens et la ligne de la campagne avec Monsieur Guzman. Et donc, on dit, mais il faut respecter l'élection européenne. C'est une élection européenne. C'est pas une présidentielle, c'est pas une législative.
Et à chaque fois, ça dérive de la même façon.
Mais parce qu'il y a un boogie-boulga, parce qu'en fait, je crois qu'il y a une peur du débat démocratique.
Alors peut-être.
Et le problème, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour moi, c'est la résultante de ce que j'appelle le modèle néolibéral, qu'il a fallu 40 ans pour s'en apercevoir, finalement. Mais est-ce que la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui peut accepter qu'il y ait des individus, comme je vais prendre un exemple, le Carlos Tavares, dont on parle beaucoup en ce moment, qui gagne plus de 36 millions d'euros par an, d'un côté, et à la fois, quand on voit qu'il y a une paupérisation aussi extrême pour une grande partie de la population.
Oui, mais là, on revient dans du politique pas oui. seulement européen, mais national.
Mais tout à fait. Mais donc, ça impose le modèle, parce qu'en fait, le fait d'avoir libéralisé l'économie à l'échelle mondiale
aujourd'hui, il faut faire
sans
avec
règles,
ce qu'elle est.
Ça veut dire qu'on a donné un pouvoir considérable aux multinationales qui ont pris la main sur le politique. Aujourd'hui, le politique, en termes de... Qu'est-ce que c'est que le politique, finalement? C'est organiser le vivre ensemble par la règle et le droit, finalement. Or, la règle et le droit est resté à l'échelle des États-nations, alors que l'économie et la finance s'est internationalisé. Donc il y a un grand delta, un
donc
grand gap.
Donc on est dans un système bancal.
Mais finalement. Oui, c'est vrai que le politique, il peut plus réguler. La loi française ne permet pas de réguler l'économie mondiale.
Voilà.
Voilà. Et donc du coup, le pouvoir s'est déplacé, depuis d'ailleurs Mitterrand, depuis les années 80, il s'est déplacé à l'échelle internationale. Et c'est pour cette raison que l'élection européenne est considérable, parce que notre quotidien va être géré et régi de plus en plus à l'échelle communautaire, à l'échelle européenne, qu'on le veuille ou pas, parce que, je le redis, c'est là qu'on va pouvoir améliorer notre quotidien, que l'on traite de santé, de pouvoir d'achat, d'énergie, d'électricité ou de gaz, parce que c'est là que ça se passe, c'est là que les grands enjeux, et si l'on veut augmenter notre champ de indépendance par rapport à ce qu'on a généré ces dernières années, c'est là que les décisions vont se prendre.
Bien, merci Éric Andrieux. J'espère que vous arriverez à convaincre justement les électeurs et à les convaincre que c'est une élection européenne et pas autre chose.
Exactement, et qui est majeure pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants.
Merci pour cette expérience. Je rappelle que vous avez été pendant 10-11 ans député européen, d'où cette connaissance du fonctionnement de la maison, Europe. Merci à vous.
Merci.
Enfin, je rappelle également que cette émission sera rediffusée demain à 11h05 et qu'ensuite elle sera mise en podcast sur notre site internet grandsudfm.com.